Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.
Bienvenue dans le MAG de l'environnement. Ici Aurélien Cula pour le parc naturel régional Corbière-Fenouillade. Entendez-vous le chant des forêts ? Nous sommes en plein milieu des bois, près du village de Rabouillet, dans les contreforts pyrénéens, où nous reçoit Sébastien Rouzeau, dirigeant de la société SR Bois. Bonjour Sébastien, merci de l'accueil.
Bonjour.
À vos côtés, Héloïse Nona, chargée de mission charte forestière au PNR Corbière-Fenouillade. Bonjour Héloïse.
Bonjour Aurélien.
Alors tous les trois aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette question. Les forêts de notre territoire sont-elles une chance ou un fardeau ? Question provocatrice évidemment, mais qui a le mérite de pointer ceci ? Les nombreux massifs forestiers des Corbières et du Fenouillède font surtout parler d'eux lorsqu'ils brûlent. Les 14 000 hectares partis en fumée à l'été 2025, avec les drames humains que cet incendie a provoqués, soulèvent des questions légitimes. Zones abandonnées à reconquérir ou réservoirs de biodiversité à préserver ? Ressources à exploiter ou patrimoine touristique à encadrer ? Que faire de nos forêts ? Merci Héloïse et Sébastien d'apporter vos regards et votre expertise sur le sujet. Commençons d'abord par clarifier de quoi nous parlons Héloïse. Qu'appelle-t-on exactement une forêt ?
Alors si je prends la définition géographique et cartographique d'une forêt, on va parler d'abord d'une surface qui doit être d'au moins 5000 m², mais aussi d'arbres qui ont un potentiel d'atteindre 5 mètres de hauteur à maturité. Donc ça va être un peu la distinction entre une forêt et une garrigue par exemple, mais aussi une largeur qui doit être d'au moins 20 mètres pour le distinguer des bosquets, et une utilisation du sol qui n'est ni urbaine ni agricole. Et aussi un boisement vu du haut qui a un couvert forestier d'au moins 10%. Donc ça veut dire qu'on a quand même une certaine densité dans les arbres sur le territoire.
Et alors qu'est-ce que ça représente comme surface du territoire, les forêts ?
D'un point de vue du territoire national, sur la France, on a 31% de couvert forestier. Et quand on se penche sur le parc, on est sur 75% de forêts et d'espaces semi-naturels. Donc ça comprend les forêts, mais aussi les garrigues et les landes. Et donc si on se concentre vraiment sur les forêts avec la définition stricto sensu que je viens de donner, c'est plutôt environ 58% du territoire qui sont concernés.
D'accord, donc sur le parc on a une bonne moitié de forêt en fait.
Exactement.
D'accord, en termes de surface. Et cette forêt elle est très diversifiée.
Oui, effectivement le territoire il est très contrasté parce qu'on a des conditions bioclimatiques qui sont très différentes entre Pyrénées et Méditerranée. Donc ça nous donne des ambiances paysagères qui sont très différentes entre par exemple la plaine viticole de Tuchan et ses garrigues, ou encore les grands massifs forestiers de Boucheville, des forêts historiques comme celle des Fanges, avec des arbres qui peuvent être plantés ou de la végétation spontanée. Et tout ça c'est de la forêt.
Et alors qui gère cette forêt ? Elles appartiennent à qui toutes ces forêts ?
La forêt, elle peut être publique ou privée. En France, on a 75% de forêts privées pour 25% de forêts publiques. En forêt publique, c'est l'ONF qui est gestionnaire, que ce soit les forêts domaniales qui sont propriétés de l'État, ou les forêts qui appartiennent aux collectivités comme aux communes, où l'ONF peut aussi être gestionnaire. En forêt privée, donc, ça peut être des experts forestiers et des gestionnaires qui gèrent la forêt, ou les privés eux-mêmes. Ils peuvent être accompagnés par le Centre national de la propriété forestière, qui pourra leur donner des conseils sur la gestion à apporter.
Et sur le territoire du parc, c'est quoi la répartition entre forêt privée et forêt publique ?
Ça suit à peu près la moyenne nationale.
Vous travaillez avec des naturalistes, hein, notamment les agents du parc chargés de mission Natura 2000. Vous avez une vision précise, j'imagine, de la manière dont ces forêts s'intègrent dans les trames écologiques, l'intérêt en fait pour la biodiversité de toute cette diversité de forêts.
L'importance des forêts par rapport au territoire, c'est par rapport aux connectivités écologiques qui permettent à la faune de suivre l'intégralité de leur cycle de vie. Parce que les espèces, elles vont pas avoir forcément besoin des mêmes milieux pour se reproduire, pour chasser, pour se protéger, etc. Donc la diversité des écosystèmes, ça fait la richesse du territoire.
Mais l'intérêt de ces forêts, ça s'arrête pas à la biodiversité. Héloïse, il y a tout un tas d'activités humaines qui prennent la forêt comme support. Je pense à la chasse, le tourisme ou l'activité aussi d'extraction du bois, comme ici à Rabouillet. Vous êtes chargé d'élaborer une charte forestière à l'échelle du PNR, c'est-à-dire recenser un petit peu tous les usages qui sont faits de cette forêt et de porter un regard global sur tous les massifs du parc, c'est ça?
Exactement, on parle beaucoup de gestion multifonctionnelle des forêts en France. Ça veut dire quoi? Que cette forêt elle a plusieurs fonctions. Elles sont à la fois économiques, environnementales, sociales et culturelles. Et j'aime bien parler de socio-écosystèmes forestiers. Ça montre bien le lien entre les côtés sociaux et les côtés vraiment naturels de la forêt. Et donc la charte forestière, elle permet de mettre en lien tous ces sujets, d'asseoir les différents acteurs du monde de la forêt et du bois autour de la table pour pouvoir établir un programme d'action sur plusieurs années qui répondra aux besoins du territoire qui auront été identifiés dans le cadre de l'élaboration de cette charte forestière.
Alors pour l'élaborer, il a d'abord fallu faire un diagnostic, un travail de terrain pour savoir à qui appartient quelle forêt, qu'est-ce qui se passe dedans, ça doit être un travail de fourmi ça.
Exactement. Alors, il y a déjà beaucoup de côté cartographique. On a beaucoup de données, heureusement. Donc, un travail de terrain, mais aussi un travail de bureau pour cartographier tout ça. Et puis, rencontrer tous les acteurs pour permettre d'avoir une connaissance fine du territoire, que ce soit sur l'amont forestier ou sur l'aval. Donc, on va vraiment de la graine au meuble, j'ai envie de dire, pour vraiment comprendre comment cet écosystème il maille le territoire et aussi il s'intègre dans un territoire pyrénéen et national et quelles sont les dynamiques qui sont en cours.
Alors justement, en termes de dynamique, est-ce qu'on a des exemples d'actions que vous, dans vos actions avec le parc, dans votre rôle, vous pouvez accompagner ou dynamiser, voire impulser? On a des exemples de gestion, d'utilisation pérenne, durable de ces massifs forestiers?
Oui, il y a beaucoup de thématiques différentes dont on peut saisir dans une charte forestière. Sur notre territoire, une des priorités, c'est la gestion du risque incendie. Mais il y a aussi beaucoup de préoccupations sur la préservation de la biodiversité et l'adaptation des forêts au changement climatique. Donc il peut y avoir des tests de nouvelles essences, il peut y avoir un travail sur la gestion sylvicole et comment on fait pour avoir des forêts qui soient résilientes au changement climatique. Ça peut passer par exemple par le financement de travaux forestiers qui normalement seraient déficitaires pour permettre justement d'accompagner les propriétaires dans cette transition. Donc il y a plusieurs PNR qui se lancent dans cette dynamique. Il y a aussi beaucoup de PNR qui travaillent sur les vieilles forêts, avec l'importance du gros bois et des très gros bois et du bois mort au sol. Donc voilà, ça peut prendre beaucoup de formes. Et tout l'enjeu aujourd'hui en 2026, c'est de pouvoir voir sur notre territoire à nous comment est-ce que on articule tout ça et quelles sont les actions qui peuvent être les plus pertinentes.
Vous avez déjà quelques exemples d'actions prévues dans les mois ou les années qui viennent?
Je travaille en ce moment beaucoup avec l'association Bois des Pyrénées, qui permet de valoriser les arbres du massif pyrénéen et qui permet de certifier justement de l'exploitation forestière à la construction que le bois est d'origine locale. Bon, là on parle d'une localité à l'échelle du massif pyrénéen, mais on se questionne beaucoup sur comment faire en sorte que les élus pensent bois dans les projets de rénovation ou de construction publique. Donc ça c'est un premier axe sur lequel on va travailler. On peut par exemple, en tant que PNR, signer un pacte de la construction bois aussi, qui dit qu'on est engagé dans ces dynamiques et qu'on va promouvoir la construction en bois local au niveau des publics. Et ça permet aussi après, pour les propriétaires privés, de se rendre compte qu'on peut construire en bois local.
Bon, bah, on va y venir, puisqu'on va parler avec Sébastien, justement, de cette exploitation du bois, de comment est-ce qu'on peut encourager cette filière bois locale en circuit court. Mais ce sera juste après avoir écouté ceci.
Quand les poumons et tout m'engarce, court la vie de faille si une garce, quand l'icono va nous mengana, et que le monde me semble d'estourba, quand la pression est trop forte, qu'il y a des fachos de toutes sortes, quand la terre est au gouvernement,
et que le peuple me semble absent. Mais tu m'as dit, dis-moi quand ça dure, c'est qu'ici des scènes d'aventure. Et au même vent sur les autures, vers qu'à ça embouille des macadures. Calabrune, même vos souvenirs ont été à des gunes. En campagne, en col et montagne, fut ici le stress et la marane. Sous de la pluie ou loup cagnas, des longues sioux d'une lei bartas. Cerqui le col, le passage et le passe. Per camina, sa sioux jamaïlas. En ville, en village, en ribe des mares. La map à la main ou ben à l'hasard. Le plus beau du viage est d'avant la porte. C'est dit l'espérie, siège tout du per orte.
Vous êtes de retour dans le mag de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui en plein milieu des bois, près du village de Rabouillet, là où officie Sébastien Rouzeau, dirigeant de la société SR Bois qui nous reçoit aujourd'hui. Avec nous également Héloïse Nona, chargée de mission charte forestière au PNR Corbière-Fenouillade. Alors Héloïse, il y a peu de scieries comme celle-ci et donc peu de transformation du bois sur le territoire du parc naturel régional Corbière-Fenouillade. Pourquoi ?
Les forêts du territoire, elles sont variées, elles sont belles, mais elles se prêtent pas forcément toutes à une exploitation comme celle qu'on pourrait avoir dans d'autres régions françaises. On a par exemple beaucoup de chênes verts, mais c'est des chênes qui ont une croissance très très lente et qui sont plutôt historiquement exploités en bois de chauffage. Et puis aussi, objectif de rentabilité oblige, les petites scieries ont sans doute disparu au profit de plus grosses unités de production et qui sont aussi plus proches des massifs les plus productifs.
Vous voulez compléter, Sébastien ?
Ben en fait, c'est un peu le constat que moi j'ai fait il y a 14 ans là quand j'ai créé la mienne de scierie, parce qu'il restait à l'époque encore la scierie voivrée au boulou, mais c'était quasiment une des dernières scieries qu'il y avait dans le département. côté audois, on retrouve quand même des unités, voilà, qui ont pu se développer, qui ont pu grandir. Je pense notamment à Quillan, à la Syrie Inard, qui est au sud de Carcassonne, qui ont su, elles, pouvoir grandir et puis continuer à s'approvisionner un peu autour de leur site de production avec les forêts de sapins et les différentes essences qu'on peut trouver ici.
Alors justement, la forêt dans laquelle on se trouve, c'est quoi les essences que vous exploitez ici? C'est une forêt qui est familiale, c'est ça, qui
appartient à votre famille? Alors en fait, voilà, moi je suis co-gérant avec l'un de mes grands frères d'un groupement forestier où on a fait l'acquisition d'une parcelle de 120 hectares. Qui est une forêt historiquement, qui est rattachée un peu à ce qu'on retrouve dans Bougeville et la forêt communale de Rabouillet. C'était une hêtraie sapinière qui a été très longtemps utilisée jusqu'au début des années 1900 pour le charbon. L'avantage qu'on a eu, nous, sur nos 120 hectares, c'est qu'il y a eu des propriétaires qui étaient là avant nous, qui ont fait des essais dans les Pyrénées-Orientales, notamment avec le Douglas. Donc maintenant, on se retrouve avec deux unités de production, avec une partie plus naturelle où on retrouve du hêtre, du sapin, un peu de châtaignier, et plusieurs hectares au niveau de Douglas qui a très bien fonctionné et qui me permet maintenant de le valoriser avec les produits que je propose à la scierie.
Et alors, on est au milieu de votre exploitation forestière. C'est plutôt minimaliste en termes d'infrastructure. Vous avez choisi la légèreté, le côté vraiment artisanal, et de faire du bois en circuit court, d'avoir un lien direct avec les clients.
C'est tout à fait ça. Alors en fait, je suis parti un peu à l'envers de ce qu'on ferait dans une scierie traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai d'abord évalué la quantité de bois que je pouvais avoir à disposition. Donc je travaille au niveau sylvicole avec une micro-gestion. Je suis presque un extraterrestre un peu dans l'échelle du bois actuellement. Mais c'est vrai que j'ai choisi de pouvoir valoriser mes produits directement et un peu comme on retrouvait à l'époque qui commence à se développer de plus en plus dans l'agriculture avec un circuit court. Donc j'ai fait juste adapter ce qui se passe en agriculture avec la vente de viande, avec mes produits au niveau de la scierie.
Vous faites uniquement du bois de construction ?
Alors j'avais commencé au début à faire un peu de bois de chauffage, mais bon, on a l'avantage d'être sur une commune forestière, donc c'est pas à Rabouillet que je faisais des affaires, et au niveau logistique ça devenait compliqué parce que c'était principalement des livraisons dans la plaine que je faisais. Et après maintenant j'ai une activité quand même relativement plus importante quand même sur la scierie. Je me suis centralisé là depuis quelques années à ne faire que du sciage et de la construction.
D'autant que, justement, vous avez les essences appropriées. Vous parliez de Douglas, de hêtre. On peut faire, du bon bois de construction avec ça.
C'est exactement. C'est-à-dire que, je suis dans une catégorie de scierie où on n'a pas le droit au traitement du bois, mais en fait, j'oriente les clients vers le bois qui correspond à l'usage qu'ils veulent en faire. Et on a l'avantage, avec ces Douglas, de pouvoir proposer un bois qui est durable à l'extérieur. Donc, c'est vrai qu'ici, ça me permet de faire des pergolas, des terrasses, des petits cabanons de jardin et qui sont durables sans traitement. On peut penser que 120 hectares c'est une très grande surface, mais en fait à l'échelle forestière c'est quand même tout petit, parce que par exemple les Douglas l'ont 55 ans, mais pour avoir le même genre de diamètre en hêtre il faut presque le double, voire il faut 100-120 ans pour avoir un hêtre qui fera le même diamètre qu'un Douglas de 50 ans. Le sapin c'est un peu la même chose, donc c'est vrai que travaillant avec de petits volumes, là pour le moment je suis que sur des phases d'amélioration de la forêt, avec notamment une envie d'irrégulariser, c'est-à-dire que pas passer par une coupe où on va couper tous les arbres, c'est de garder des vieux arbres, continuer à les faire grossir, tout en créant des percées où de jeunes arbres vont pouvoir se développer. Et ainsi, ça sera pas pour moi, mais pour les générations futures, avoir une forêt à plusieurs étages et qui permettra d'avoir du bois jeune qui continuera à se développer, de gros arbres pour pouvoir continuer l'exploitation. Alors, sous le principe d'une scierie ou pas, mais quand on travaille en forêt, on travaille pas que pour ça, on travaille surtout pour le futur.
Donc dans cette forêt, pas de coupe claire avec des grosses machines.
Il y en a eu. Alors après c'est pareil, nous sur le groupement forestier, on travaille sur deux parties. On a une partie de bande de bois parce que à mon échelle, je suis tout seul, je peux pas tout faire. C'est un grand jardin quand même. Et donc on a une partie où on va vendre du bois sur pied. J'ai ma micro-exploitation où je travaille avec du petit matériel à la hauteur de ce que je suis capable de faire. Et on a aussi une partie où on doit faire des coupes pour l'amélioration de la forêt, où on a de grosses surfaces qui peuvent être traitées par exemple par des machines, donc abatteuses, porteurs. Mais le choix par contre des acheteurs se fait notamment sur la qualité de leur travail. Étant sur place, ça me permet de suivre de près les chantiers, que le travail soit fait un peu de la manière dont on veut.
Et il y a du travail pour combien de personnes? Alors sur ces 120 hectares, vous arrivez à en vivre, vous?
Alors moi, oui, voilà, moi je suis seul sur la partie sillage. Il m'est arrivé de sous-traiter des fois des étapes au niveau du bûcheronnage, par exemple. Mais c'est vrai que sur 120 hectares, ça reste entre guillemets limité. Je pense qu'on pourrait travailler à deux. Moi, j'avais le projet, voilà, de développer plus la construction de bois. Donc pendant quelques années, j'ai essayé de trouver de pouvoir travailler avec un charpentier, par exemple, qui pourrait après fournir la construction de maisons, mais c'est de pouvoir articuler tout ça et d'avoir le temps nécessaire, parce que moi j'ai un métier mais qui en regroupe quasiment sept puisque je suis propriétaire, gestionnaire, c'est moi qui vais marquer les arbres, qui vais décider un peu de ce qu'on va mettre à la vente ou pas. J'ai rédigé le plan de gestion dernièrement, parce que sur une surface comme ça, on a un document sur 25 ans qui nous permet de déclarer ce qu'on va faire comme coupe. Voilà, on n'est pas tout à fait chez soi en étant en forêt, donc ça c'est validé par le CNPF. Ensuite, je suis bûcheron, débardeur, scieur, je rabote aussi le bois et je vais parfois jusqu'à poser les ouvrages que j'ai proposés à mes clients.
D'accord, un circuit court complet.
Voilà, ouais. Quasiment de l'arbre au client final, sans intermédiaire.
D'accord. Héloïse, comment est-ce qu'on peut faire pour encourager le développement de ce type de filière d'exploitation du bois de manière assez artisanale en circuit court?
Ici, sur le territoire du parc et sur les Pyrénées, on n'a pas trop une culture bois. Donc, en tant que charte forestière, moi, mon travail, c'est d'inciter les gens à penser bois. Ça peut passer par des échanges très techniques, mais aussi par de la sensibilisation grand public et par de la communication. Par exemple, dans un programme de sensibilisation et d'animation auprès des publics, on peut évoquer toutes les questions dont on a traité aujourd'hui sur les différents usages du bois, les interactions entre biodiversité et filière forêt-bois. Donc, pouvoir un peu valoriser tous les usages de la forêt et du bois, c'est l'un des axes principaux de la charte forestière.
Il y a la possibilité aussi peut-être d'encourager, d'accompagner les élus locaux dans leurs projets notamment de travaux publics, d'intégrer du bois local lors de nouvelles constructions ou de rénovation de bâtiments municipaux par exemple.
Exactement, on peut les accompagner dans la prescription, donc comment intégrer le bois dans les projets de territoire, et puis après dans la conception. Comme le disait Sébastien, différents bois vont avoir différents usages, donc c'est aussi important de pouvoir donner un avis technique sur quel bois on peut utiliser et comment faire pour que ce soit valorisé à sa juste valeur.
Alors, vous parliez de sensibilisation grand public. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a des sorties qui sont prévues pour emmener les gens à la découverte de ces forêts sur le territoire du parc?
Oui, on a réussi à organiser un certain nombre de sorties thématiques sur la forêt et sur le bois. Donc, pour la Journée internationale des forêts le 21 mars et puis au mois de juin dans le cadre du Festival Nuit des forêts. Donc, ça permettra d'avoir une approche à la fois sensible des forêts avec du spectacle vivant et puis une approche aussi plus scientifique sur la biodiversité, le changement climatique. Donc, je vous invite à voir le programme d'animation du parc.
Bien, merci beaucoup Héloïse pour cette fenêtre ouverte sur le patient travail que vous menez pour protéger, valoriser les richesses naturelles du territoire et pour en savoir plus sur les actions et les animations du parc dont vous parliez. Rendez-vous sur la page Facebook ou sur les applications Panneau Pocket et Iliwap et bien sûr sur le site parc.corbière-fenouillède.fr.
Merci.
Merci aussi à vous pour votre accueil, Sébastien Rouzeau, dirigeant de la société SR Bois Rabouillet, et surtout bonne continuation dans vos activités.
Merci.
Voilà, le mag de l'environnement, c'est terminé pour cette semaine. On va laisser la forêt de Rabouillet reprendre sa vie paisible. Cette émission a été préparée et présentée par Aurélien Cula, montage additionnel réalisé par Philippe Co pour RCF Pays d'Aude. N'oubliez pas de vous émerveiller, prenez soin du vivant qui vous entoure et à la semaine prochaine.
C'était le MAC de l'environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Lingo Doc Narbounot, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.